CITV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de « Bonjour chez vous ». Aujourd'hui, notre thème du jour est « Tu peux faire la différence dans ton milieu ». Bonjour à tous.
Bonjour Yveline.
Comment allez-vous aujourd'hui ?
Ça va bien.
Super, c'est merveilleux. Aujourd'hui, on va voir comment dans notre milieu, alors un milieu, ça peut être une famille, ça peut être notre milieu professionnel, ça peut être avec nos amis, ça peut être dans notre église, peu importe, dans les, au milieu des gens qui nous entourent. Voilà, tout simplement, c'est ça, notre milieu, on peut faire la différence. On peut être des personnes qui allons briller, qui allons manifester la gloire de Dieu de toutes sortes de façons et on va voir comment aujourd'hui. Et Anne, en deuxième partie d'émission, dans la rubrique Flashback, tu vas nous parler de Maria Ether Woodworth.
Oui, exactement.
Je ne sais toujours pas le prononcer.
C'est ça, une femme qui a fait la différence dans son milieu de manière absolument brillantissime. C'était une fermière, mais dont Dieu s'est servi d'une manière puissante qu'on est encore éberlué 100 ans après, 150 ans après. Mmh. Je vais vous raconter, elle a eu un destin absolument fabuleux à tomber de sa chaise. Alors, restez avec nous.
On l'a appelée la grand-mère du
pentecôtisme.
C'est ça.
Ouais.
Quand même.
Hein.
Ça, c'est quand on t'appelle comme ça, c'est que c'est du sérieux.
Tout peut-être qu'aujourd'hui, c'est l'arrière-arrière-grand-mère.
Oui, bon, on calcule plus. Hein. Excellent. Donc, on va commencer tout de suite avec toi, Gwen, dans la pensée du jour.
Alors oui, aujourd'hui, on dit et on veut dire à quelqu'un que vous pouvez faire la différence. Et le titre de ma pensée, c'est « Que ta lumière brille ». C'est vraiment une invitation du Seigneur à savoir que notre lumière doit briller, amen, dans notre entourage. Et Matthieu 5, 13 nous dit « Vous êtes le sel de la terre mm-hmm. ». Matthieu 5, 14 dit « Vous êtes la lumière du monde mm-hmm. ». Rien que ça. Mm-hmm. Et on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de chrétiens qui passent toute leur vie, je dis bien toute leur vie, à chercher des solutions, alors qu'en fait, le mandat de Christ pour nos vies, c'est d'être une solution, la solution. Il dit, vous êtes le sel, vous êtes la lumière. C'est important, parce que ça devrait vraiment déjà nous challenger. Mmh. On connaît bien ces versets, mais en théorie, qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça donne en pratique ? Le Seigneur nous appelle pas seulement le sel ou la lumière, il nous appelle le sel de la terre, et il nous appelle la lumière du monde, ce qui veut dire pour le monde, mm-hmm. pour la terre, avec un but. On a un but, on a une capacité, on a quelque chose qui est pour, c'est fait pour donner. Et autrement dit, on est l'élément clé sur cette terre qui devrait changer, impacter notre environnement. On est cette lumière qui entre et là où il y a des ténèbres, les ténèbres s'enfuient parce que la lumière est entrée. Là où la vie manque de goût pour certains, pour ceux qui sont en train de dépérir, ceux qui sont fatigués, chargés, on devrait être le sel qui assaisonne leur vie. Mmh. Et c'est vraiment important. La quatrième chose que je voudrais dire, c'est que lorsqu'il y a un chrétien dans un environnement, une entreprise, un milieu, un travail, une famille, c'est cette personne qui devrait être connue non seulement pour son excellence, pour sa joie, pour son intégrité et toutes sortes de qualités qu'on peut connaître à l'homme de Dieu. Et, mais pas seulement. Le chrétien, c'est aussi cette personne qui a une capacité surnaturelle à apporter une solution dans ce monde. Et aujourd'hui, vous êtes un chrétien, vous êtes une chrétienne et vous nous regardez et votre vie, elle ressemble pas forcément à ce que je suis en train de dire. Mais ça peut changer. Si on commence à comprendre que Dieu nous a donné un mandat, que Dieu a posé sur nous un mandat spécifique pour cette terre, c'est de faire des disciples, mais aussi d'être une solution ou la solution pour ce monde. La cinquième chose que je voudrais dire, c'est que le chrétien, c'est un ambassadeur de Christ. Et ça, on aime bien le dire à toutes les sauces dans les églises. On est un ambassadeur, on est un ambassadeur. Il y a même des champs où on est un ambassadeur. Mais en fait, un ambassadeur, c'est quoi? C'est une portion d'un territoire. Et vous êtes la portion du territoire du ciel. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Au ciel, il n'y a pas de pleurs. Au ciel, il n'y a pas de manque. En gros, lorsque vous êtes là, vous êtes l'ambassadeur. Cette portion du ciel, une portion du ciel, c'est pas rien. Mmh. C'est pas rien, une portion du ciel qui s'est avancée vers quelqu'un. Donc, vous portez une grande solution en vous. Mmh. Donc, aujourd'hui, je veux encourager quelqu'un à réaliser qu'il porte bien plus qu'il pense en lui-même et que le tout puissant Saint-Esprit habite en nous et qu'il veut, au travers de nous, exercer les diverses grâces de Dieu, les grâces du Seigneur. Tout comme Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien, vous allez de lieu en lieu faisant du bien, vous faites la différence. Vous n'êtes pas comme les ténèbres qui impactent ce monde d'une manière malheureuse, mais vous êtes comme Jésus-Christ qui impacte ce monde d'une manière bienheureuse, si je puis dire. Donc, que votre lumière brille puissamment dans ce monde qui attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles. Gloire à Dieu.
Amen, amen. C'est extraordinaire quand on réalise celui ou celle qu'on est et que Dieu fait de nous. Et quand on s'en rend compte, on se dispose favorablement à être un instrument entre les mains de Dieu. Je crois fermement que si chaque jour, dans notre temps de prière matinale, on disait au Seigneur, je me dispose aujourd'hui pour, dans le milieu où tu vas m'emmener, que ce soit à mon travail, que ce soit même, je sais pas, dans le métro, dans le bus, ou même dans ma voiture sur l'autoroute, dans les bouchons, que tu vas faire de moi une lumière, que tu vas faire de moi le sel de cet environnement, de ce lieu, pour que je puisse être une source de bénédiction pour quelqu'un. Je crois fermement que Dieu se sert de cette prière et ouvre des opportunités. Parce qu'en fait, les besoins autour de nous sont tellement multiples, si seulement on les voyait. Mais souvent, on est tellement dans notre bulle de notre journée, de nos activités, de nos propres défis personnels qu'on peut avoir, qu'on ne voit pas en fait tous ces besoins qu'il y a autour de nous, qui gravitent autour de nous. On va regarder notre verset du jour, Ésaïe 60 au verset 1. « Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière, car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. » Amen, c'est notre cas, la gloire du Seigneur s'est levée sur nous le jour où nous sommes nés de nouveau. Nous avons reçu une portion de la gloire de Dieu en nous et nous sommes capables et appelés à la manifester. Et Gwen, combien de fois on est passé à côté de ce que Dieu avait prévu pour nous?
C'est exactement ça, et on se rappelle de cette parabole où je crois qu'il y a un scribe, un pharisien et un bon samaritain, c'est ça. Et tu me corriges hein, si j'ai une erreur, mais en tout
il
cas,
donne un petit coup de pied
on se souvient
table.
Que, mais on se souvient, ah, j'ai reçu un coup. Non, on se souvient que Jésus lui-même va en parler. Jésus a été témoin de cette scène. C'est une parabole, mais je suis persuadé qu'il a déjà été témoin de cette scène. Et cet acte de bienveillance, c'est un acte puissant. Les gens pensent des fois que s'il n'y a pas des paralytiques qui se lèvent, etc., ça veut dire que ma vie n'est pas puissante. Mais la bienveillance, c'est Jésus qui en parle à ce moment-là. Il va dire qu'il y a une puissance à salut par l'acte de bienveillance de cette personne-là. Et souvent, on passe à côté parce qu'on se dit « Ah, oh, c'est réservé au pasteur, le pasteur est plus loin, l'homme de Dieu est plus loin, la femme de Dieu est plus loin, etc. » Elle a plus de capacité, mais c'est Christ, c'est le même Christ qui habite en nous, c'est le même Saint-Esprit, celui par lequel toute chose a été créée. Il habite en nous, donc on a cette capacité et on passe souvent à côté parce qu'on se dit « Bah, ce que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment important. Tu parlais de disposition. Et si on se dispose pas à croire qu'on est une solution dans cette journée qu'on est en train de vivre, on se lève le matin et puis on oublie qu'on est la lumière des nations. On oublie que bon, aujourd'hui je vais au travail, je vais effectuer ma tâche comme tout le monde, puis je vais rentrer, puis ce soir mon souper, etc. Mais si on pense que aujourd'hui c'est un jour que l'Éternel a fait,
amen.
C'est un jour que Dieu m'a donné pour que je puisse être la représentation de son corps. C'est puissant. Je vais aller au travail en me disposant d'une manière différente. Et c'est là aussi que Dieu va nous parler, va se servir de nous. Parce qu'il va dire, ici, j'ai un serviteur utile. Parce que ce matin, il s'est disposé à accomplir les choses que je veux qu'il accomplisse. Je me souviens d'une fois où j'étais en train de rouler. J'étais en train de revenir des bureaux. Et puis, j'ai vu une personne en train de marcher. Et ça avait l'air assez pénible. Il faisait super chaud. Et des fois, aider les gens, briller, ça nous coûte. Et si on est des personnes disposées, moi j'avais vraiment envie de rentrer chez moi, mais si on est disposé, on sait que aujourd'hui c'est le temps pour quelqu'un de recevoir son salut, de recevoir sa guérison, de recevoir une aide. Peut-être que les gens vont pas accueillir ça comme leur salut, l'aide, la guérison, mais nous on aura été en tout cas cette bénédiction qui s'est approchée d'eux. Parce que Jésus s'est approché aussi de gens pour les guérir, mais comme il y avait là beaucoup d'incrédulité, il ne put faire quelques miracles, si ce n'est qu'il les guérit tous. Mais il avait une provision pour plus. Donc nous, notre façon de penser, c'est on a une provision pour plus. Donc j'ai fait demi-tour et je suis allé voir cette personne. Et en fait, il habitait vraiment à un autre endroit. Et cette personne est venue dans ma voiture et j'ai commencé à l'écouter, parler. Et en fait, cette personne était déjà venue une fois dans notre église.
Oh.
Ouais, une fois dans notre église. Donc pour lui, c'était la manifestation que Dieu le cherche, que Dieu le poursuit, même quand il est là en train de marcher sous le soleil, qui revenait d'une journée de travail difficile, etc. Ben, c'est la manifestation du corps de Christ et la manifestation de la main de Dieu. Donc, des fois, on passe à côté parce qu'on se dispose pas, parce qu'on pense pas que c'est nous la solution.
Ouais.
Et puis, des fois, on néglige même le salut qu'on porte. Je me souviens, une fois, j'étais dans un magasin et puis, il y avait cette personne qui était là, qui était en train de, d'avoir une attitude vraiment exécrable à mon égard. Et puis, je me suis laissé emporter, non pas dans la colère, mais à avoir une argumentation, un débat avec lui, parce qu'il était en tort. Et puis, je suis parti de là. Et une fois que j'étais dans ma voiture, j'étais avec ma femme, mes enfants, et là, il y a eu comme une tristesse à l'intérieur de moi. Et le Saint-Esprit m'a juste dit, t'étais l'occasion pour cette personne de voir la lumière aujourd'hui. Et tu l'as manqué.
C'est
non pas que Dieu me condamnait, mais cette personne, elle avait besoin de voir la lumière. Moi, j'étais dans un magasin d'outillage, tu sais. Et des fois, on se dit, ben, on s'en fiche, c'est un magasin d'outillage, je vais juste chercher des outils, je vais juste faire mes courses. Non, tu vas dans un environnement pour l'impacter.
Ouais.
Tu y vas, tu vas faire tes courses, certes, mais ça, c'est secondaire. Tu t'occupes des choses du royaume. Lui, il s'occupe de remplir ton caddie. Amen.
Amen.
Et donc, ça, c'était une des choses que j'ai vécues. Une autre chose que j'ai vécue qui est plutôt positive, c'est que un jour, on sortait de l'église et j'étais rempli, on avait eu un culte extraordinaire, j'étais rempli du Saint-Esprit et je pouvais rien faire d'autre que prier en langue. Je priais en langue, puis on allait faire les magasins. On était avec Jérémy, Annabelle et puis ma femme et puis on était dans le magasin, puis je me suis posé et je priais en langue. J'étais là, je priais en langue, j'étais rempli du Saint-Esprit. Mon fils est venu à côté de moi, il s'est mis à prier en langue. Et dans un magasin, c'est pas interdit de prier en langue dans les magasins. Surtout, c'est même pas écrit sur les portes, ne priez pas en langue. Et donc, là, je prie en langue, puis d'un coup, j'ai un chant qui vient dans mon cœur et je commence à chanter un chant en anglais que je chante absolument jamais, mais vraiment jamais. Et puis, je commence à chanter ça, je connaissais à peine les paroles, mais juste le refrain. Et là, il y a une personne qui ouvre la cabine, qui me dit, c'était une anglophone, qui me dit, je connais cette chanson, oh, on chante ça dans mon église, etc. Et puis, il y avait son ami qui n'était pas sauvé, qui lui, pour lui, c'était un signe encore que Dieu vient à sa rencontre. Comment s'est terminée cette histoire? Ben, je les ai fait venir tous les deux. Il y avait la cabine d'essayage. Tout le monde était habillé.
Merci de préciser.
Priez pas pour les gens lorsqu'ils sont tout nus. Fuyez!
Même pudicité.
Oui. mais faut donner des conseils, Evelyne.
Merci, Gwen. Développe.
Et puis là, je me suis mis à prier pour eux, mais surtout particulièrement pour lui, qui connaissait juste un tout petit peu l'évangile, mais qui n'était pas sauvé. Mais être rempli du Saint-Esprit et disposé pour toutes sortes de bonnes œuvres, c'est là le devoir du chrétien, en fait.
Amen. Amen.
Nous sommes appelés à être la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Hein. Il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Mais maintenant, il dit, c'est vous la lumière du monde.
Oui.
Mais en fait, la lumière que nous sommes, c'est la sienne.
Exact.
C'est la sienne qu'il a allumée en nous. Et Jésus nous dit, personne n'allume une lampe pour la mettre sous un boisseau. C'est-à-dire pour la mettre sous un vase et la cacher. Et quelque part, si on pense d'un point de vue du Père, et de dire, j'ai allumé plusieurs lampes, mais elles sont toutes cachées. C'est-à-dire, à quoi ça sert toutes les lampes que j'ai allumées? Ce que le Seigneur a déposé en vous, l'Esprit qui est en vous, la bonne nouvelle que vous avez reçue, si c'est pour qu'elle soit cachée, ben c'est une lumière qu'on a cachée sous un vase et sous un lit. Et ce n'est pas comme ça que ça doit marcher. Notre lumière, elle est là pour briller. En fait, je ne sais pas s'il faut qu'on change le titre de cette rémission, mais c'est
qu'est-ce
pas...
Qu'est-ce qu'il a, mon titre?
C'est un peu tard.
C'est un peu tard pour changer le titre. C'est
allez,
pas
vas-y.
Tu peux, c'est il faut.
Tu dois.
Tu dois, parce que oui, on peut, on a la capacité de... Mais ce n'est pas juste la capacité de changer le milieu dans lequel on est,
oui.
Mais on a la nécessité, c'est notre mandat, c'est notre rôle, c'est ce que le Seigneur attend de nous, qu'on change et qu'on soit un porteur de changement, de bonnes nouvelles, de lumière, de paix, de joie. Et ça, ce n'est pas juste « Ah, aujourd'hui peut-être » ou « Peut-être demain ». Non, c'est ce qu'on est et on doit le faire.
Amen, amen. Alors,
je vais lire un petit peu plus loin le verset. Ça nous dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. »
C'est vrai.
Ça, je veux dire, Jésus, il blaguait pas.
Non.
Et puis, moi, comment il m'a montré un peu cette illustration. On faisait une série de réunions un peu comme de réveil, si je peux dire, dans notre église. Puis, je prêchais et soudainement, l'image m'est venue, Anne. J'ai vu l'église et là, Dieu me dit, mais vous êtes comme une salière. Et j'ai dit, ben, on est tous ici dans l'église et Dieu, il est comme ça avec la salière. Il sort, fais quelque chose, bouge. Et on est tous ensemble, alléluia, l'église. Et on est tous ensemble, c'est beau. Mais après ça, il n'y a plus rien qui se passe par la suite. Il est là, il tape dessus. Je vous envoie, faites quelque chose.
On est colmaté.
Oui, c'est ça, on est tous ensemble. Mais c'est l'image qu'il m'a donnée. J'ai dit, c'est comme ça qu'en fait, on est. Ouais. C'est comme ça que peut-être Dieu peut nous voir. C'est comme ça qu'il me l'a révélé. J'ai dit, j'ai dit, là, il faut faire de quoi?
Vraiment.
C'est Jonathan l'a dit, tu dois, t'es obligé. Et puis la chose qui va te pousser à le faire, et ça, on revient toujours là-dessus, c'est l'amour de Dieu en nous.
Mm-hmm.
C'est toujours. Parce que c'est plate de le dire, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'œuvres qui sont là dans le monde, même pas chrétiennes, font plus que beaucoup de chrétiens en font, en fait.
Mm-hmm.
Comprenez-vous ce que je veux dire?
Des
œuvres humanitaires tout ça. Et tant mieux s'ils sont là, tant mieux. Et puis nous, on est appelés, c'est super, c'est excellent de prendre soin des veuves, des orphelins. La Bible dit et toutes ces choses, de pouvoir donner de la nourriture et tout ça. Et après ça, l'étape supérieure à tout ça, c'est Jésus qui a donné le modèle dans Luc 10, qui a envoyé ses disciples par la suite manifester le royaume de Dieu au travers de la puissance. Parce que oui, c'est ce qui va faire que les gens vont dire, mais c'est beau, tu donnes de la nourriture, c'est super, wow. Mais oui, Jésus existe, OK, mais l'autre le fait aussi. Qu'est-ce qui va démontrer la puissance et la supériorité de Dieu au monde entier? Jésus avait dit à ses disciples, allez, guérissez les malades, chassez les démons et tout ça.
Amen.
C'est comme des étapes. Un n'est pas forcément meilleur que l'autre, mais c'est l'amour de Dieu qui nous pousse à ça, à agir. Et après ça, ben, la puissance de Dieu se manifeste davantage aussi. Mais c'est un « tu dois » comme
Jonathan l'a dit. Et tout le monde est appelé.
Oui, tout le monde
est appelé.
La lumière ne sera pas… Il y en a qui savent peut-être briller plus, d'autres briller moins, mais ça brille.
Ouais.
Et la lumière, elle est là. Alors, on va dire « oui, mais moi, je ne suis pas… Hein, » on donne souvent l'exemple de Billy Graham ou de quelqu'un comme ça. Bon, là, peut-être, ça brillait fort, mais ça ne veut pas dire que ça ne doit rien briller.
C'est ça.
Et peut-être vos enfants ont chanté ça quand ils étaient petits, ou enfin, en tout cas, les notes, oui. Ma petite lumière,
je la ferai briller.
Tiens, je vais le faire dans Hosanna.
Ma petite lumière, je la ferai briller.
Je chante avec Gwen aujourd'hui.
Ma petite lumière.
J'ai été dans une...
Let it shine.
Je la connaissais en anglais.
Alors, je pourrais dire que j'ai fait une émission de télévision où j'ai chanté avec.
Oh là là, quel grand.
Quel privilège.
Quel bon final.
Quel privilège
à ce
pour
temps
moi.
De partage en musique. En musique. Merci à tous pour ce beau final en chanson. On va maintenant passer à la rubrique flashback avec Anne. Alors Anne, aujourd'hui, comme on l'a dit, tu vas nous parler de la grand-mère ou arrière-grand-mère du pentecôtisme.
Oui, on parle de petite lumière qui brille. Ben, moi, je vais vous raconter l'histoire d'une femme qui a fait briller sa lumière.
Un phare, peut-être.
C'est plus qu'une lumière, là. C'était tout un feu d'artifice. Et oui, c'était un personnage haut en couleur, cette grand-mère éthère. On l'appelait Grandma Ether. Et c'est une grand-mère. Mais c'est une petite bonne femme et il suffisait qu'elle lève la main vers le ciel et la puissance de Dieu descendait.
Waouh !
Alors, elle vaut vraiment la peine qu'on se penche sur son cas.
Ouais.
Comme tu dis, on l'a appelée la grand-mère du pentecôtisme et c'est elle, entre autres, qui a vraiment contribué à la fondation des mouvements de Pentecôte aux États-Unis, entre autres, qui a fondé les Assemblées de Dieu américaines.
Ah oui, c'est elle.
Donc en 1913, elle a été vraiment à la base de ce mouvement-là. Et ça a été une prédicatrice vraiment talentueuse, remplie de l'Esprit de Dieu, et elle a amené des milliers de gens à la repentance. Il y a eu beaucoup de guérisons sous son ministère aussi, et des visitations de l'Esprit de Dieu extrêmement puissantes, à tel point que certains ont même dit qu'elle a été, pour la première fois depuis le livre des Actes des Apôtres, vraiment un démonstrateur de l'Esprit de Dieu.
Wow. Quand même.
Alors voilà, elle a toutes sortes de surnoms, mais c'était « The Greater Demonstrator of the Spirit », since the Book of Acts. Donc c'est vraiment la... C'était une petite bonne femme, mais qui était remplie de la puissance de Dieu.
Wow.
Et c'est vrai qu'elle sortait des sentiers battus. Elle était vraiment atypique pour son époque. On était encore à l'époque d'une église très calme, très posée, très traditionnelle. et rien ne la prédisposait à devenir ce qu'elle est devenue. On était 20 ans même. Elle est née en 1844 et elle s'est convertie à l'âge de 13 ans. Et elle a vraiment commencé son ministère dans tout son éclat une vingtaine d'années avant Azusa Street. Okay. Je vous ai déjà raconté le réveil d'Azusa. Et donc, c'est en 1906. Donc, plus de 20 ans avant, cette femme-là a commencé son ministère. Et elle s'est convertie, elle avait 13 ans. Elle était dans un milieu très traditionnel, qui était, on appelait ça les Holiness Movements. C'était des mouvements vraiment de sainteté, où on s'appliquait vraiment à la sanctification et on cherchait vraiment à plaire à Dieu.
C'est bien pour démarrer.
C'est très bien pour démarrer. Donc, elle est née sur une ferme de l'Ohio et elle s'appelait Mariah Underwood à l'époque. Et donc, c'était au moment du troisième grand réveil qui a été... Vous savez, on a identifié plusieurs grands réveils depuis le début du XVIIe jusqu'au XXe siècle aux États-Unis. Et donc, ce qui caractérisait ces mouvements, c'est qu'il y avait une prise de conscience du péché, beaucoup de conversions, mais il n'y avait pas ces visitations du Saint-Esprit comme on lit dans le livre des apôtres, hein, et des actes des apôtres. Alors, elle s'est repentie à 13 ans, et puis tout de suite, le Seigneur lui a parlé, et elle s'est sentie appelée à servir. Et d'ailleurs, le prédicateur qui a prié pour elle ce jour-là a dit, il a prié le Seigneur que sa vie soit une lumière éblouissante. On est dans le thème de la lumière aujourd'hui, et elle l'a vraiment été. Elle a immédiatement répondu au Seigneur, « Oui, je te servirai ». Et elle a même entendu la voix de Jésus qui l'appelait en lui disant d'aller dans les chemins et le long des haies, hein, pour reprendre Luc 14, 23. Mais c'est sûr, on est dans la fin du deuxième partie du 19e siècle. Et le plus gros obstacle qui s'est tout de suite présenté, bah, c'était une femme.
Vous allez le dire, bah
c'était
oui.
C'était une femme. Donc, au 19e siècle, même aux États-Unis, les jupons ne prêchaient pas. Et en plus, elle était célibataire. Donc, elle a dit, bah, Seigneur, je ne vois pas absolument comment je pourrais répondre à ton appel. Elle est une femme célibataire. Comment servir Dieu dans ces conditions-là?
C'est sûr qu'à l'époque, c'était mal parti. Quoi.
C'était très, très mal parti. Donc, elle a réfléchi, elle a décidé, en fait, donc humainement, hein, vraiment une réflexion humaine, elle a dit, bah, la seule façon que j'ai d'y arriver, c'est d'épouser un homme de Dieu. Donc, elle a dit, je vais aller à l'école biblique, je vais peut-être en trouver un là-bas. Donc, elle est partie au collège biblique. C'est une bonne adresse. Et il y en a beaucoup qui font ce raisonnement-là. Mais vous savez très bien que quand on fait des raisonnements humains pour rentrer dans les pas de Dieu, c'est en général des très mauvais calculs.
C'est vrai.
Et ça a été un mauvais calcul pour elle. Donc, elle est partie au collège biblique. Et puis, très peu de temps après son arrivée, il y a eu une tragédie familiale. Son papa, qui était fermier, est mort dans un champ, en travaillant son champ. Donc, elle a dû revenir à la maison et s'occuper de sa famille, aider sa mère et ses petits frères et sœurs. Alors, elle s'est installée dans ce qu'elle pourrait appeler, dans ce qu'elle appelait à l'époque, une vie chrétienne normale, mère de famille, pas encore mère de famille, mais en tout cas, dans une vie chrétienne bien, bien réglée. Et là, c'était la fin de la guerre de sécession aux États-Unis, et elle a rencontré un soldat qui avait été blessé à la tête et qui s'appelait P.H. Woodworth. Alors, ils ont eu un temps de fréquentation éclair, ils se sont vite mariés, ils ne se sont pas posé de questions. Donc, c'était un gars qui était chrétien, mais pas du tout appelé au ministère, qui avait, comme on dirait, qui était un chrétien du dimanche. Puis bon, leur mariage n'était pas une grande réussite, donc ils s'épuisaient sur la ferme, ils ont eu 6 enfants. Donc là, les débuts étaient assez loin de ce que Dieu l'avait appelé à faire.
Effectivement.
Et elle était vraiment de plus en plus brimée parce qu'elle avait l'appel de Dieu sur son cœur et son mari ne voulait absolument pas servir. Et puis, une deuxième tragédie a frappé. Vous allez me dire, c'était vraiment mal parti. 5 de leurs 6 enfants décèdent lors d'une grande épidémie. Il y a eu une épidémie à cette époque-là aux États-Unis. Et il en a perdu 5 sur les 6. Et il lui est juste resté une de ses filles. Et Maria, c'est une femme de Dieu. Elle tenait ferme dans l'adversité. Elle n'a jamais laissé son cœur s'endurcir. Et elle s'appliquait vraiment plus que jamais à chercher la face de Dieu. Et plus elle lisait la parole, plus elle était touchée en disant, en se rappelant l'appel que Dieu lui avait adressé. Puis elle a été particulièrement touchée par la prophétie de Joël 2:28 quand il dit que dans les temps de la fin, ben, je répandrai de mon esprit sur toute chair, mes fils et vos fils et vos filles prophétiseront. Et là, elle s'est dit, ben, moi, je suis une fille et l'esprit va être sur moi. Alors, elle a prié, elle a porté les yeux vers le ciel en disant, Seigneur, je ne sais pas prêcher, je ne sais absolument pas quoi dire et je n'ai pas fait d'études. Alors, si tu veux que je te serve, il va falloir que tu remplisses ma bouche. Et elle disait, ben, plus je cherchais, mais plus je trouvais de choses pour me condamner parce que j'étais une femme.
Ah oui.
Et un soir, elle a une vision en priant et elle voit des anges dans sa chambre et ils l'enlèvent. Et c'est une femme qui a été plusieurs fois dans sa vie de femme adulte, dans sa deuxième partie de vie, qui a eu ce que Paul a appelé un ravissement dans l'esprit. Elle était ravie en esprit. Et là, c'était la première fois qu'il y a des anges qui sont rentrés dans sa chambre et qui l'ont emmenée en esprit pour survoler des lacs, des rivières. Et à un moment donné, elle était au-dessus d'un champ et elle a eu cette vision. Elle a vu les gerbes de blé se pencher alors qu'elle ouvrait la bouche pour parler du Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, comme le grain tombe à terre, les gens tomberont.
Wow.
Alors, elle n'a pas compris sur le coup. Et c'est plusieurs années après qu'elle a compris ce que ça voulait dire. Et là, elle s'est rendue dans une réunion de Quakers. Elle a été baptisée du Saint-Esprit parce qu'elle était en train de prier pour avoir l'onction sur son service et elle a été baptisée de l'Esprit. Alors, elle a commencé timidement son ministère, malgré le fait que son mari ne veuille pas servir avec elle. Elle a commencé dans sa localité. Elle avait à peu près 40 ans. Et comme le Seigneur avait promis, il a rempli sa bouche. Et elle avait à peine ouvert sa bouche lors de cette première réunion que les gens ont commencé à tomber à genoux, à se repentir devant Dieu de leurs péchés, saisis par leurs péchés et par la nécessité de se repentir.
Oh, wow.
Alors, comme cette première réunion était une grande réussite...
Très beau début.
Elle a eu très bon début. Mmh. Elle a commencé à être invitée à droite à gauche pour aussi apporter la parole de Dieu. Et en quelques mois, elle a prêché plus de 200 fois. Et elle a ouvert deux églises avec chacune plus d'une centaine d'adultes. Donc, ça commençait sur les chapeaux de roue, donc à l'âge de 40 ans. Et il y a même eu une réunion particulière. Elle avait été invitée par des gens qui ne voulaient pas qu'elle réussisse. Et ils l'ont invitée pour se moquer d'elle et pour la voir se ridiculiser dans un endroit qui s'appelait Devil's Den. Ça veut dire l'antre du diable.
Oui.
Wow.
Et ils l'appelaient le cimetière des prédicateurs. Tous ceux qui avaient essayé d'amener l'évangile ici s'étaient cassés les dents. Donc, elle avait été invitée par des gens malveillants qui voulaient vraiment l'humilier publiquement. Mais ils ont eu la surprise de leur vie. Parce que pendant les trois premiers jours, il n'y a pas grand-chose qui a bougé, mais le quatrième, elle a pris autorité spirituelle sur les principautés qui régnaient sur Devil's Den et elle les a fait mordre la poussière. Et elle a prié que Dieu fasse une démonstration de puissance. Et ce soir-là, les gens ont commencé à se repentir sur leurs péchés, à se repentir de leurs péchés, à pleurer sur leur misère. Et Dieu a fait une grande œuvre dans cette ville de Devil's Den. Et là, je vous dis, on est 20 ans avant Azusa. Et jusque-là, elle n'avait pas prier pour les malades. Elle avait prêché l'évangile, elle avait amené beaucoup de gens à la repentance, mais elle ne sentait pas que c'était son ministère de prier pour les malades. Mais en 1885, elle a commencé à prier pour les malades avec un succès énorme.
Mmh.
Et elle dit... C'est ça, les gens tombaient... Oui, c'est ça. Elle disait, mais il s'est passé quelque chose d'un peu surprenant. Un jour, dans une église de l'Ohio où elle prêchait, il y a une quinzaine de personnes qui se sont approchées de l'autel en pleurant sur leurs péchés. Les hommes et les femmes sont alors, à ma grande surprise, tombés comme morts par terre, terrassés par la puissance de Dieu.
Ah, wow.
Et elle dit, elle écrit elle-même, « Je n'avais rien vu de pareil, je savais que c'était Dieu qui agissait, mais je ne savais pas comment l'expliquer. » Donc, je vous rappelle qu'elle était issue des Holiness Movement, et là, on était très calme, on cherchait la sanctification, on voulait que toute chose se fasse dans l'ordre. Donc, elle était assez surprise, un peu réticente, disant, « Qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, après quelques temps par terre, les gens se relevaient complètement transformés, soulagés de leurs péchés, rayonnants de joie. Et donc Maria et personne d'autre n'avaient vu ce genre de conversion spectaculaire. Les pasteurs et les anciens qui étaient présents louèrent Dieu pendant cette réunion pour sa grandeur et pour l'effusion de sa puissance.
Mmh.
Et à partir de ce jour, le ministère de Maria Ether a été vraiment caractérisé par ce genre de choses. C'est-à-dire que... les gens étaient tellement puissamment convaincus de leur péché, ils étaient sous la puissance de Dieu, et puis la plupart du temps, ils s'écroulaient à terre tellement ils étaient saisis par l'Esprit de Dieu. Et il y a même une quinzaine de docteurs qui sont venus examiner ces gens en disant qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'ils font exprès, est-ce que c'est des simulateurs. Il y a même un grand spécialiste internationalement reconnu, et il est venu avec son fils, et à sa grande surprise, son fils s'est converti, et lui-même après a été touché par la puissance de Dieu, il est devenu lui-même un évangéliste.
Wow.
Donc, c'était une femme, ça a l'air facile comme ça, mais en fait, elle était sujet de beaucoup d'opprobre, beaucoup d'opposition, parce que ça ne plaisait pas à tout le monde, ce genre de choses. Elle était critiquée parce qu'elle était une femme, elle était critiquée parce qu'il y avait ces démonstrations de puissance dans ces réunions. Et elle a été beaucoup même menacée. Plusieurs reprises, il y a des gens qui se sont approchés d'elle, même pour la tuer pendant des réunions.
Wow.
Donc, elle était critiquée de l'intérieur et de l'extérieur. Mmh. Les pasteurs, les anciens dans l'église n'étaient pas toujours favorables et même des fois très opposés. Et à l'extérieur, il y avait des gens même qui la menaçaient de mort. Mais elle ne se laissait pas perturber. Elle disait que Dieu l'avait revêtue de tellement d'assurance et de puissance qu'elle se semblait invincible. Et la plupart du temps, d'ailleurs, les gens qui s'approchaient pour la menacer et l'insulter. Un jour, il y a un gars qui s'approchait d'elle qui lui voulait du mal. Et il s'est retrouvé arrêté à quelques mètres du pupitre, complètement pétrifié sous la puissance de Dieu. Il est en train de l'insulter, il avait commencé à l'insulter, puis là, sa langue s'est comme bloquée, il n'avait plus à parler. Et devant tout le monde, il y avait même des journalistes qui étaient là, qui en ont témoigné dans les journaux locaux à l'époque. Elle était vraiment protégée, Dieu empêchait qu'on lui fasse du mal. Donc elle a eu 45 ans de ministère, elle a prêché à des milliers de messages d'évangélisation. comme c'est dit tout à l'heure, en 1885, elle a commencé à prier pour les malades avec beaucoup, beaucoup de succès. Il y avait vraiment des cas désespérés qui étaient guéris, des paralytiques qui se levaient, des aveugles qui voyaient, des sourds qui retrouvaient l'ouïe. Il y a eu des tuberculeux qui ont été guéris instantanément et même un gars qui est venu avec des fractures de partout et sous la puissance de Dieu, il a été guéri là, sous les yeux de tout le monde de ses fractures et il s'est relevé complètement guéri. Et il y a plein de témoignages, il y a eu des recherches de fait dans les années 70 dans les journaux locaux de l'époque et il y avait plein de journalistes qui avaient des entrefilets de journaux qui disaient ce qui s'était passé. Donc, ce n'est pas une légende, ce n'est pas des gens qui ont fait de la mousse avec des choses. Mm-hmm. Vraiment des choses qui sont arrivées à l'époque. Elle a été une grande source d'inspiration, entre autres pour Aimée MacPherson, dont on a déjà parlé dans cette émission, pour Smith Wigglesworth aussi. Oui. Et quand il y a eu le réveil d'Azusa Street, quelques années plus tard, à la fin du réveil d'Azusa Street, il y a un homme d'affaires qui a voulu un peu ramener la flamme à Azusa et qui lui a demandé en 1912 à Maria Ether de venir prêcher. Et là, le feu a repris à Azusa, donc une deuxième vague de feu qui a repris sous l'onction de cette femme. Je vous dis, elle était tellement remplie de l'Esprit de Dieu qu'il suffisait qu'elle lève sa main, on la voit sur cette photo, elle levait sa petite main et là, l'Esprit de Dieu tombait. Vraiment,
c'était caractérisé comme ça.
Elle levait sa main et l'Esprit de Dieu agissait. Donc, les gens se repentaient de leurs péchés, ils se convertissaient, les malades étaient guéris. Il y avait des démoniaques qui étaient délivrés.
C'est extraordinaire.
Et il y en a qui vont peut-être nous écouter en ce moment, puis qui se disent « Ah ben oui, mais ça, c'était pour, ça fait 150 ans, 100 ans, et c'est plus pour maintenant, et que l'Église, maintenant, est tombée dans bien des travers. » Mais je voulais leur dire à ces gens-là que ce n'était pas du tout la vision de Maria. Et les signes et les miracles sont encore pour aujourd'hui.
Ouais.
Et non seulement ils sont encore pour aujourd'hui, mais il y a une fabuleuse prophétie qui a été donnée à cette même époque. Mmh. Hein, au début du XXe siècle, en 1912 ou 13, je crois, on l'a appelée la prophétie des 100 ans, que Maria Ether, d'ailleurs, a donnée, entre autres, mais aussi Charles Parham, dont je vous ai déjà parlé, qui était le premier à avoir enseigné le message de la Pentecôte, et aussi William J. Seymour, qui a été celui qui a amené le réveil d'Azusa. Donc, c'est, par exemple, Charles Parham et William J. Seymour ont donné la même prophétie le même jour à deux endroits différents.
Ah ouais.
Et Maria Ether, dans un autre endroit, a dit la même chose aussi en 1913. Donc, ces gens-là ont dit qu'il y aurait un autre grand mouvement de l'esprit dans une centaine d'années, donc maintenant. Mmh. Et il y aurait une effusion de l'Esprit de Dieu, une démonstration de sa gloire plus grande et de plus grand impact encore qu'Azusa.
Alléluia.
Ça, c'est ce qu'ont dit William J. Seymour et Charles Parham. Et pendant l'été, Maria a commencé des réunions de réveil à Chicago. Et il y a eu, pendant 6 mois, ça a été vraiment l'effusion absolue de l'esprit sur toute la ville de Chicago. Et le réveil s'est répandu même jusqu'au Canada. Et,
jusqu'à
UMCI. Jusqu'à UMCI maintenant. Et donc, pendant ce réveil de Chicago, qui a été vraiment extrêmement puissant, Maria aussi, un soir où il y avait particulièrement une visitation de l'esprit, elle a dit qu'il y aurait... voici ce qu'elle dit. « Nous ne sommes pas encore arrivés à la plénitude de ce que l'esprit de Dieu veut faire. Cela dépassera de loin ce que nous avons vu ici. » Dieu va se manifester de manière plus grande encore dans une centaine d'années avec une gloire qui ne s'est jamais encore vue. Alors, voilà ce qu'a dit Maria, voilà ce qu'a dit Charles Parham, voilà ce qu'a dit William J. Seymour, qui étaient des hommes et des femmes de Dieu remplis de la puissance de l'esprit, puis qui ont caractérisé cette époque puissante de réveil pentecôtiste hallucinant. Et ces gens-là ont prophétisé que dans une centaine d'années, il y aurait à nouveau quelque chose d'encore plus puissant, puis nous y sommes. Alors, nous le croyons.
Oui.
Et puis, nous l'attendons. Mais ce que disait Maria, elle disait « Il vaut mieux s'user pour Jésus-Christ que de rouiller sur place. » Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne viendront pas si on reste rouillé sur place. Mmh. Il faut chercher la face de Dieu. Ce qui a caractérisé ces gens, donc Maria, Charles Parham et William J. Seymour, c'est des gens qui étaient humbles et c'est des gens qui cherchaient avec avidité la face de Dieu.
Mmh.
Et l'Esprit de Dieu s'est répandu là où il y a eu des gens pour l'accueillir.
C'est vrai.
Donc, ça ne sert à rien de rester les bras croisés et d'attendre que ça vienne tout seul parce que ça ne viendra pas tout seul.
Mmh.
Il faut vraiment qu'il y ait des hommes et des femmes qui s'appliquent à chercher la face de Dieu. Puis, je vais finir en disant une citation de Maria Ether parce qu'on l'a vu au début de l'histoire, la chose qui l'a vraiment bloquée, c'était d'être une femme. Et elle a commencé juste à répondre à son appel, à rentrer dans son appel qu'à 40 ans.
Ouais.
Donc, elle a quelque part, elle a été appelée à 13 ans et elle est rentrée dans le service vraiment qu'à 40 ans. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent qui sont aussi bloquées par toutes sortes de raisonnements. Comme elle disait, plus j'étudie, plus je me trouve condamnée. Mmh. Je pense qu'il y a des femmes qui nous écoutent qui sont dans ce cas-là. Et elle a dit ceci, je vais vous le dire en anglais parce que c'est ses paroles à elle. Puis après, je vais vous le traduire en français. Elle a dit, « My dear sister in Christ, as you hear these words, may the Spirit of Christ come upon you. and make you willing to do the work the Lord has assigned to you. Et en français, c'est ma chère sœur en Christ, comme tu entends ces paroles, que l'Esprit de Christ vienne sur toi et te fasse désirer ardemment faire l'œuvre que le Seigneur t'a assignée. Mmh. Alors, je vais vous laisser sur ces paroles. Elle a été une puissante inspiration, je vous ai dit, pour Aimé McPherson, ouais, pour beaucoup d'autres, ouais, hein, pour même Catherine Kuhlmann, pour des hommes aussi comme Smith Wigglesworth. Et elle a été vraiment la grand-mère du pentecôtisme. Hein. 20 ans avant Azusa, elle commençait déjà les réunions de réveil. Et c'est elle qui nous a laissé ce message inspirant. Mmh. Et puis aussi cette prophétie qu'on attend, et on l'attend fermement, parce qu'on sait que ce qui sortait de la bouche de cette femme, c'était à prendre très au sérieux.
Mmh. Mmh. Amen. Wow, quelle histoire extraordinaire. Toi, Frank, tu la connaissais déjà.
Je la connaissais, ouais. J'ai lu personnellement.
Personnellement. Donc,
En fait, Frank est le grand-père de la...
Du prochain mouvement.
Grand-père de Maria Etterwood-Boss.
Mais Maria, c'était super puissant. Et t'as parlé des manifestations comme ça aussi. Et des gens, il y avait dans des réunions, les gens figeaient, en fait. T'as lu un peu?
Figeaient, vraiment.
Ils figeaient dans l'esprit. Ils arrivaient, mettons, ils s'approchaient d'elle, puis... Wow. Et il pouvait rester comme ça pendant des heures et des heures et des heures. Et à un moment donné, et là, mais il se passait des trucs. Et ça, j'ai vu ça une fois dans une réunion de puissance. En fait, c'est la seule fois de ma vie où je suis tombé moi-même, personnellement. L'homme de Dieu qui était venu, il était dans le coin de Montréal. Il ne m'a pas touché. C'était une réunion très, très puissante. Il ne m'a pas touché. J'ai revolé. C'est arrivé une fois. Et dans cette même réunion, il y a quelqu'un que je connais qui a figé pendant près de 2 heures. Et j'en revenais pas. Moi, ça avait duré un bout à terre, hein, je t'ai visité. Et puis, la personne était figée, comme ça dans l'esprit. Mm. Et là, et moi, j'étais là, waouh, il se passe de quoi? Il se passe de quoi? Et c'est spécial. Je me dis, pourquoi figer? On se dit, pourquoi figer à la maison? Dieu fait ce qu'il fait et il n'y a pas besoin de nous de tout faire comprendre.
Il y a une raison. Hein.
Et après ça, c'est comme, le temps, Dieu fait quelque chose. Oui. Et il visitait les gens d'une façon surnaturelle, vraiment, dans ces réunions. Mais comme tu l'as dit, hein, Amy Simple McPherson et les autres, après ça, c'était waouh, c'était une inspiration extraordinaire. Puis c'est ça, c'est vraiment le sceau de Dieu sur des femmes. C'était comme génération après génération. Amy était un petit peu plus jeune, ouais. Catherine plus jeune après, mais c'est comme ils s'enchaînaient comme ça et c'était waouh, c'était tellement
puissant. Elle a vraiment ouvert la voie, en fait. Elle a ouvert la voie à quelque chose de différent.
Hein. Ouais.
C'est ça. Puis pour ceux qui écoutent et qui ont des réticences ou qui disent bah, ça ne marche pas, il faut comprendre que là, ce qui se passe avec cette femme-là, il n'y a aucune imitation de quoi que ce soit. Il ne s'agit pas de faire ce que les autres ont déjà fait.
Absolument.
Mais non, c'est nouveau.
C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est Dieu qui l'a fait.
Oui.
Parce qu'aujourd'hui, certains vont dire « Ah, ben, il y a certains événements, manifestations qui se passent dans des églises où c'est fait, où c'est forcé. » Bon, tandis que là, ce n'est pas le cas. Et du coup, ça doit nous amener à d'autant plus d'humilité et de dire ben, « Le Seigneur peut agir de différentes manières, comme il veut, et que ce qui est important, ce n'est pas la manière, mais c'est comment ça se produit. Mm-hmm. » Je vais prendre juste quelques secondes pour raconter une vieille histoire.
Vas-y.
Je me souviens qu'il y a quelques temps, il y avait une critique par rapport à la bénédiction de Toronto, où, parce qu'il y avait des gens qui rigolaient là-bas. Bon, je ne prends pas position d'un côté ou de l'autre, mais en tout cas, on va dire non, mais ça ne marche pas. Et ma mère, qui a vécu des temps de visitation du Seigneur dans les années 30, donc ça remonte bien avant la bénédiction de Toronto.
50, chérie, parce qu'elle est née en 32.
Ah oui, dans les années 50.
La vieillit pas.
Mais encore là,
dans les années 50.
Dans les années 50.
Ça. Donc ça veut dire bien avant Toronto, disait qu'elle se souvient que dans un camp
à
Embrun, un camp de vacances chrétien, dans un milieu d'église assez conservateur, il y a eu un tel mouvement de l'esprit ce soir-là que tout le monde s'est mis à rire. Mais ils ont copié personne.
Ben non.
Parce que ça venait nulle part.
C'est ça.
Et donc, c'est pour ça qu'il faut être prudent par rapport à ces manifestations, que le plus important, si quelqu'un tremble, si quelqu'un tombe, si quelqu'un ceci, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que Dieu agisse.
Ah, et dans les réunions de Maria Etter, il y avait beaucoup de joie. Hein, quand les gens s'étaient repentis, il y avait des explosions de joie après que les gens soient repentis. Des gens qui chantaient, il y avait même des gens qui dansaient, il y avait même des gens qui criaient de joie. Mmh. Et elle a été critiquée pour ça et elle leur a répondu, mais il y a des gens qui vont être très surpris en arrivant au ciel. Parce qu'ils s'imaginent qu'au ciel, c'est serein et paisible, mais au ciel, ça chante, ça danse,
Alléluia.
Plein de joie.
Yes.
Et elle dit, il y aura des gens qui vont être très, très surpris en arrivant là-haut.
Au tout premier mouvement de Pentecôte, n'oublions pas, les gens pensaient qu'ils étaient sous.
C'est vrai.
Ils étaient sous. C'est qu'ils avaient une attitude particulière.
Donc, il ne faut pas...
Effectivement.
Il ne faut pas vouloir surfaire, essayer d'imiter et de faire du simili, mais laisser la liberté au Saint-Esprit de faire ce qu'il a à faire quand il a à le faire sur les gens qu'il a désignés.
Amen. Merci Anne pour cette belle rubrique flashback. Tu nous as encore appris des choses qui nous boostent et qui nous encouragent à nous aussi aspirer à vivre des choses comme celle-là. Et je vous encourage vraiment à briller dans votre milieu. Et depuis le début de cette émission, j'ai entendu deux fois dans mon esprit le mot infirmière. Et je crois réellement qu'il y a une infirmière qui nous écoute et vous devez briller dans votre milieu. Je ne sais pas quelle promesse Dieu vous a faite, mais il est temps de vous lever et d'impacter le milieu dans lequel vous êtes, d'être ce sel, d'être cette lumière là où vous êtes dans votre travail en tant qu'infirmière. Et on va se retrouver demain. Notre thème sera « Pourquoi est-ce si important de se sanctifier ?» Le mouvement Holiness.
Holiness.
On va en parler.
Soyons holy.
Justement. On va en parler. Et nous aurons à la rubrique « Pasteur, j'ai une question » et « Culture et médias ». Donc ne manquez pas l'émission de demain. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Brillez dans votre milieu. Allez, à demain et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.